Les podcasts du Collège de France, littérature.
Lorsque, au début de ce cours, j'ai présenté sommairement en parallèle les Novas Occitanes et les Lettres Marie de France, j'ai dit que les Novas s'enracinent explicitement dans les chansons des troubadours, ne cesse de les citer et de les commenter, tandis que les Lettres Marie de France, qui s'enracinent explicitement dans les Lettres bretons, ne les citent jamais, à l'exception de leur titre. Et donc, le rapport du récit en vers au poème lyrique est entièrement différent dans chaque cas, à la fois analogue et différent. Mais ce qui rapproche les Lettres de Marie de France des Novas, c'est que les Lettres de Marie de France sont également redevables aux chansons des troubadours. Comme les Novas, Marie de France, comme les auteurs de Novas, Marie de France connaît les troubadours et s'en inspire. Ces Lettres sont redevables à leurs chansons sans jamais cependant ni les citer ni s'en réclamer. Alors, on dira que dans un cas de ce genre, l'influence reste à démontrer, mais enfin, ce sont des faits sur lesquels on a déjà attiré l'attention. Je ne le fais pas par mes propres forces. Je me limiterai à des exemples sûrs et pour lesquels l'histoire littéraire confirme la critique interne, et en particulier à ceux qui ont été mis en lumière et analysés, j'ai déjà cité cet article, par Elisabeth Poe dans un bel et important article publié dans Romania en 2006, « Marie de France and the Salut d'amour ». Et nous en reparlerons d'ailleurs encore à propos du salut d'amour lui-même. Certains points de cet article touchant et à la nature du salut d'amour et à la chronologie relative de certains poètes ont été critiqués depuis, je l'avais dit aussi, par Constanzo di Girolamo. Mais ces critiques n'affaiblissent pas du tout les idées maîtresses de l'article et, au demeurant, ne touchent pas la question que j'envisage pour l'instant. Et donc, je rends hommage à cet article qui est, d'une certaine façon, et même tout à fait mon point de départ, parce que l'exemple que je vais développer est un exemple qui est signalé dans cet article. Quelle qu'ait été l'identité de Marie de France, il ne fait pas de doute qu'elle était liée au milieu plantagenet et qu'elle appartenait au milieu plantagenet. Tout le monde sait, d'autre part, le lien étroit entre cette cour plantagenet et le monde de Languedoc et le monde des troubadours, puisque la femme d'Henri II Plantagenet était Aliénor d'Aquitaine, et puisque leurs enfants, leurs fils, en tout cas pour les deux aînés, ont passé leur vie, peut-on dire, dans les terres d'Oc et au contact avec les troubadours. Henri, le jeune roi, couronné du vivant de son père, est mort avant lui, et Richard Cœur de Lion, au moins pour ses années de jeunesse. On sait les liens entre Bertrand de Born et bien d'autres, et le jeune roi. Et d'autre part, on sait, nous avons eu l'occasion d'en parler longuement l'an dernier, on sait que la Vida de Bernard de Ventadour nous dit que Bernard, c'était après avoir été amoureux de la vicomtesse de Ventadour, selon l'usage de la femme de son patron, si je puis dire, s'est épris d'Aliénor d'Aquitaine. Vous en souvenez peut-être, ou certains d'entre vous s'en souviennent, on peut d'autant moins se fier à la Vida sur ce point qu'elle se trompe en affirmant qu'Aliénor était duchesse de Normandie avant son mariage avec Henri II Plantagenet et que Henri II Plantagenet l'a arrachée à sa Normandie pour l'emmener en Angleterre, alors qu'elle est bien entendu devenue duchesse de Normandie par son mariage avec Henri II, héritier des domaines de Guillaume le Conquérant. Mais il n'empêche, Bernard de Ventadour a été en relation avec les Plantagenets. Dans le cas contraire, il aurait bien été le seul parmi les troubadours de son époque et de sa région à ne pas l'avoir été. Il a certainement composé des chansons pour Aliénor, si c'est bien elle que désigne, comme la plupart des critiques s'accordent à le penser, si c'est bien elle que désigne le signal, vous savez, le surnom, Mon Aziman, mon aimant. Évidemment, en français, c'est ambigu, aimant, mais Aziman, c'est l'aimant qui attire le fer. Donc, il surnomme Aliénor Mon Aziman, ce qui est assez joli, et ce signal figure dans trois chansons, Jazz de chantar non prentalan, je n'ai pas envie de chanter, pois preiat me, Seigneur, puisque vous me demandez Seigneur, et l'incanvei per me la landa, quand je vois parmi la lande. Et dans la première et la troisième de ces chansons, le Mon Aziman est associé au roi d'Angleterre. Dans des conditions d'ailleurs un peu ambiguës, parce que les deux fois, et particulièrement dans Jazz de Chantar non Prentalan, Bernard dit qu'il est obligé d'aller rejoindre le roi d'Angleterre, enfin le roi, dit-il, mais on comprend que c'est le roi d'Angleterre, parce que le roi le lui demande et que du coup il doit quitter Mon Aziman. Mais ça n'empêche pas que Mon Aziman soit Aliénor d'Aquitaine quand on pense aux relations conjugales compliquées de ce couple. Et de toute façon. Et Bernard semble même être allé en Angleterre, comme le suggèrent les vers 36-39 de la chanson L'Ancanvei per me la landa, quand je vois parmi la lande. Faites est ouvert tot aranda, si que mots noit deschabdoia, outre la terre normanda, part la fer amar prionda. Voilà le poème achevé au cordeau, sans un mot qui ne soit à la hauteur, au-delà de la terre normande, outre la mer sauvage et profonde. Donc il semble y être allé. Il y a donc, non, j'allais dire toute vraisemblance, mais il n'y a pas toute vraisemblance. Il est certain que Marie de France a connu ses chansons. Et certaines de ses chansons, en particulier la fameuse chanson de l'Alouette, que je ne cesse de citer, certaines de ses chansons étaient au demeurant si célèbres qu'on en trouve, même hors du domaine anglo-normand, des transpositions en langue d'Oïl dans plusieurs chansonniers français et dans le roman de Guillaume de Dole. Et il semble bien que Marie de France, dans ses lais, se souvienne à plusieurs reprises, et même assez souvent, des chansons de Bernard de Ventadour. Et je reprends ici, pour le développer et l'interpréter, l'un de ces cas et l'un des exemples que donne Elisabeth Pau. Alors, je prends les choses d'un peu loin et par un texte encore plus connu. Vous savez que je ne cesse de circuler dans des textes rebattus. Donc, tout le monde connaît, mais d'un autre côté, si on dit tout le monde connaît, on a l'air cuistre. Enfin, bref. Chrétien III, dans le Conte du Graal, au début du Conte du Graal, fait de l'euphémisme le surplus pour désigner les faveurs ultimes que peut accorder une femme. Un usage qui a beaucoup frappé et à juste titre. Parmi les conseils que la mère de Perceval lui donne avant son départ pour la cour du roi Arthur se trouve l'autorisation d'accepter le baiser qu'une demoiselle pourrait lui offrir, mais l'interdiction du surplus, dit-elle. Dans le texte, bien que... Là encore, si j'étais pédant, je dirais tout le monde le sait par cœur. Non, je vais même le baisser un petit peu au-dessus, j'avais mis oui, la citation de Bernard de Ventadour que je viens de faire. Donc, voilà. De pucelle à molte qui la baise, selo baisier vos en consent. L'eau se replut, vous en défend, se laissiez le voler, port moué. Il obtient beaucoup d'une jeune fille, celui qui l'embrasse. Si elle vous accorde le baiser, le surplus, je vous l'interdis, si vous voulez bien pour moi y renoncer. Donc, à sa manière habituelle, sans avoir l'air d'y toucher, enfin, puis dire, et avec un humour retenu et ambigu qui met en fait en branle des réalités psychiques extrêmement violentes, si je puis dire. Chrétien laisse très vite entendre au lecteur l'importance de cette recommandation comme de cet interdit au regard de son héros et au regard du poids de la figure maternelle qui pèse sur lui, qui le modèle, qui le restreint, etc. L'ignorance où sa mère l'a tenue des réalités de la vie, aussi bien chevaleresque qu'amoureuse, cette ignorance le rend incapable de comprendre et l'autorisation et l'interdit que formule sa mère elle-même et qu'elle formule de cette façon terrible en imposant l'interdit pour l'amour d'elle, se laisser le voler pour moi. Et très vite, dès le premier épisode, dès la première aventure que rencontrera Perceval après avoir quitté sa mère, dès l'épisode de la demoiselle de la tante, on s'apercevra que le jeune naïf, qui a au demeurant pris pour une église la tante où repose la demoiselle, le jeune homme semble avoir mal compris la recommandation de sa mère. Et faute de savoir probablement exactement en quoi consiste le surplus, et en même temps entraîné par un désir qui lui est également obscur, il paraît convaincu, ça l'arrange, vous me direz, que sa mère lui a intimé l'ordre d'embrasser toutes les demoiselles qu'il rencontrera. Et en effet, comment comprendre l'autorisation quand on ignore la nature de l'interdit ? Alors, cet euphémisme du surplus, il faut être chrétien de Troyes pour en faire résonner aussi profondément et aussi bruyamment le silence, si je puis dire. Mais cet euphémisme du surplus, on le trouve déjà quelques années auparavant chez Marie de France dans le lait de Guigemard, dont vous avez l'extrait ici. Donc Guigemard, après sa chasse mystérieuse et dangereuse, monte sur un bateau sans pilote qui l'entraîne sur une côte inconnue, là où un jaloux, le maître du pays, tient enfermé sa jeune femme. Guigemard a quand même accès à la jeune femme et voilà, il file le parfait amour. La dame entend que vers l'édite, et l'y otreille sans respite l'amour de lui, et il la baise. Dès or, et Guigemard à aise, ensemble gisent tes paroles, et souvent baisent tes accoles, bien leur convaigne d'elle surplus de ce que les altres ont en us. La dame comprend qu'il dit vrai, et sans plus tarder, elle lui accorde son amour avec un baiser. Désormais, Guigemard connaît le bonheur. Ils sont couchés ensemble, parlent, à tout instant s'embrassent et s'étreignent et s'enlacent. Quant au surplus, ce que font d'ordinaire les autres amants, c'est leur affaire. Bon. Mais ce surplus succédant au baiser, au flirt poussé, si je puis dire, Marie, comme d'ailleurs sans doute Chrétien, l'a trouvé chez Bernard, enfin, Chrétien a trouvé ce surplus soit chez Bernard de Ventadour, soit chez Marie de France elle-même, qu'il connaissait peut-être. Marie l'a trouvé chez Bernard de Ventadour. Mais Bernard de Ventadour, avec la brièveté, avec le laconisme habituel aux troubadours, et qui fait une bonne part de leur charme et de leur mystère, Bernard de Ventadour, quoique là, ce n'est pas très mystérieux, vous me direz. Bernard de Ventadour parle non pas du surplus, mais simplement du plus. Et c'est dans la chanson Bem Cuidei de Chantar Sofrir, je pensais bien m'abstenir de chanter, au vers 16-18. Et car vos plach, que me faisait tant d'honneur, lo giorn que me det son baisan vostra mort. Del plus, sieus platz, prendet ses gardamen. Et puisqu'il vous a plu de me faire tant d'honneur, le jour où vous m'avez donné d'un baiser votre amour, pensez, s'il vous plaît, au plus. Faites attention, ayez en tête le plus. Alors, vous savez qu'il n'existe pratiquement aucune chanson de troubadour qui ne fasse, d'une façon ou d'une autre, allusion à une autre chanson. Peut-être n'y en a-t-il pas. Chaque chanson fait dans cette sorte d'immense intertexte, dirions-nous, ou cet immense jeu social, poétique et amoureux, chaque chanson reprend soit le schéma métrique, la mélodie, le thème, un vers, pour le, mais jamais, jamais complètement, avec une petite modification, pour confirmer ce qu'a dit un autre troubadour, pour aller plus loin, pour le démentir, pour le nuancer, etc. Mais il y a toujours des allusions. Par exemple, pour prendre l'exemple d'une des chansons auxquelles je faisais allusion tout à l'heure, lorsque Bernard de Ventadour commence l'une des chansons dans lesquelles il parle du roi d'Angleterre et de son aimant, Azimène, quand il commence cette chanson par « Jess de Chantar non pren talan », je n'ai pas envie, je n'ai pas de talent, le désir de chanter, Bernard reprend, mais en l'inversant, le premier vers de la célèbre chanson d'adieu de son prédécesseur Guillaume IX, le premier troubadour, chanson probablement composée au moment, non pas enfin une chanson d'adieu à la vie, mais au moment où Guillaume IX est parti pour la première croisade, parce que pour des questions de date, il fait allusion à un certain Foulque d'Angers, enfin bref, je n'entre pas dans les détails, et cette chanson commence par « Pos de chantar, mespren talens ». Poste de chantar, mais presse talens, fara une verse ensuite dolens, jamai serai obedience, en petaon et en limosi, que ramenerai en exil, en grande port, en grande terre, je sais pas quoi, en grande péril, en guerre, la serai mon fil, en fara il mal, sans vesi, l'on départir, mais ça est un grieux, c'est le seigneurage de Peter. C'est une très très belle chanson, puisque le désir m'a pris de chanter, je ferai un poème sur un sujet qui m'attriste. Jamais plus je ne serai serviteur, probablement serviteur d'amour, en Poitou, en Limousin, car je vais partir en exil. En grande peur, en grand péril, en guerre, je vais laisser mon fils et ses voisins lui feront du mal. Le départ, il m'est tellement douloureux de quitter la seigneurie de Poitiers. Je confie à Foulque d'Angers et la terre et son cousin, c'est-à-dire le fils de Guillaume IX, etc. Bon. Et le bon, poste de chantar, mais presse talents, puisque le désir m'a pris de chanter. Et Guillaume et Bernard commencent sa chanson, Jess de chantar non pren talen, voilà que je n'ai pas le désir de chanter. La liaison est claire. Enfin, je suis désolé, ça n'a rien à voir avec ce que je vous disais, je m'égare. Rien, simplement pour vous dire qu'ils se citent les uns des autres. Eh bien, alors, je reviens quand même à mon sujet, donc aux quatre vers de la chanson Bem Cuidei de Chantar S'offrir. Puisqu'il vous a plu de me faire tant d'honneur le jour où vous m'avez donné d'un baiser votre amour, pensez s'il vous plaît au plus, ces vers font très certainement, enfin c'est du moins mon avis, font à mon avis allusion à la quatrième strophe de la chanson du même Guillaume IX, Habla dolcior del temps novel, par la douceur du temps nouveau, dans laquelle, enfin plutôt par la douceur du temps nouveau, dans laquelle le comte se souvient du jour où celle qu'il aime lui a accordé son amour. Un cœur me membra d'une maté que nos faisem de guerre à fi et qu'em donnait une donne tan grande, sa drudaria et son anel. J'arrête là pour l'instant. Il me souvient sans cesse d'un matin où nous avons mis fin à la guerre et où elle me fit ce don immense, son amour et son anneau. À ce moment-là, donc Bernard Ventadour aussi se souvient du jour où vous m'avez donné d'un baiser votre amour. au point où ils en sont l'un et l'autre, dans un souvenir. À ce moment-là, Bernard, qui s'est fait l'écho de son prédécesseur presque jusqu'au jeu de mots, si vous pensez au texte occitan, « Quem donet une donne tan gran », où « Elle m'a donné un don si grand », dans la chanson de Guillaume IX, « Quem faisait stan d'honor » dans la chanson de Bernard, avec en plus une sorte que vous m'avez fait tant d'honneur, mais avec une sorte de calembour. Ça, un don, tant d'honneur. Le mot don se retrouve dans tant d'honneur. Bon. À ce moment-là, Bernard continue en disant que maintenant qu'elle lui a fait tant d'honneur, qu'elle lui a donné d'un baiser son amour, eh bien, il voudrait bien le plus. Bon. Et Guillaume, au point où il en est au même point, il lui a donné son amour et son anneau. Que souhaite-t-il? Eh bien, les deux vers qui terminent la strophe sont bien connus. Donc, « Enquer me membra d'une matière que nous faisons de guerre à fille et qu'em donnait une donne tan grande sa drudarie et son anel, enquer me laes dieus vieur tan caillamas mans sot son mantel. » Il me souvient sans cesse d'un matin où nous avons mis fin à la guerre et où elle me fit ce don immense, son amour et son anneau, que Dieu me laisse vivre assez longtemps que j'ai un jour mes mains sous son manteau. Les deux poèmes sont ceux d'amants heureux, mais qui pourraient l'être davantage, qui ont obtenu beaucoup, mais pas tout. Et chacun imagine et formule à sa manière le surplus qui portera au comble sa félicité. Chacun l'exprime à sa manière, mais tous deux partagent le souci de ne pas l'exprimer jusqu'au bout et de ne pas dire ce qui est indicible. Comment le dire sans le dire? Bernard dissimule l'indicible sous le voile de l'euphémisme en disant effectivement le moins possible et en se contentant d'un terme, d'une désignation floue et abstraite, et la plus brève possible. Il se contente de la brièveté abstraite de ce monosyllabe, plus. Vraiment. Guillaume, lui, s'abandonne à une imagination concrète et audacieuse, mais à l'audace retenue. Au lieu, ce qui retient cette audace, c'est le voile. Et au lieu du voile métaphorique, d'un bref mot imprécis, le plus, lui use d'un voile matériel, concret, le manteau sous lequel se glissent les mains, ce manteau qui voile, qui dissimule leurs gestes avides et ce que peuvent faire ensuite les mains sous le manteau. Donc, le manteau, c'est un voile, le voile, c'est un manteau. Hein, et voile, ou pour utiliser les termes qui étaient à cette époque même chez les Chartreins, certains d'entre vous s'en souviennent, ceux de l'herméneutique et de la poétique, involucrum, integumentum. Vous vous rappelez que chez les Chartreins et dans leur conception à la fois de l'exégèse, de la découverte du sens second caché sous le sens littéral, et dans leur conception de la poésie, langage figuré qui invite à trouver un sens profond sous les figures du style et du langage, eh bien, ils utilisent pour désigner le sens premier ou les figures du langage qui dissimulent et qui révèle à la fois le sens profond jusqu'auquel il faut aller, ils utilisent ces termes eux-mêmes figurés, d'involucrum, le voile qui enveloppe, d'integumentum, là aussi le voile, le tégument qui enveloppe. l'étoffe, le voile, donc l'étoffe, le voile, le vêtement des figures poétiques ou du sens littéral qui recouvre, qui dissimule le sens second, profond, véritable que la perspicacité du lecteur doit mettre au jour. L'étoffe, le voile, le vêtement, autant dire le manteau, c'est la même chose, on pourrait le dire aussi. Guillaume nomme l'integumentum, l'involucrum, concret, littéral, qui concrètement, littéralement, dissimule l'objet du désir et sa poursuite, et le geste de sa poursuite. Bernard, pour sa part, recourt à l'integumentum métaphorique, celui des mots, et puisqu'il s'agit de dissimuler l'indicible, il emploie, encore une fois, le mot le plus bref possible, le plus général possible, plus. Plus, mais en une seule syllabe, c'est le cri de l'insatiable, le cri de l'avidité, du désir, plus. C'est comme les... D'ailleurs, il y a une publicité, enfin, il y a quelques années, une publicité au cinéma célèbre reposant sur le personnage de Monsieur Plus, qui distribuait. Hein, il y avait plus d'ingrédients délicieux dans les petits gâteaux, les petits biscuits d'une marque que je ne citerai pas, pour ne pas être accusé de publicité clandestine. Et alors, il y a une première série de publicités où on voyait le maladroit Monsieur Plus donner un coup de coude aux ouvriers qui versaient les ingrédients de façon à ce qu'ils en mettent encore plus de chocolat, plus de quoi, bon. Et quelques années plus tard, ça a été repris et c'était Monsieur Plus au cinéma, hein, et son voisin dégustait les délicieuses friandises X et lui, d'un coup de coude maladroit, lui en faisait mettre encore plus en bouche. Il disait pardon, l'autre lui disait mais je vous connais, vous êtes Monsieur Plus, pardon, c'est l'habitude, etc. Enfin, excusez-moi, mais enfin bon, comme quoi il n'y a pas que Bernard de Ventadour qui est inspiré par ce mot bref, plus, et qui voit tout ce qu'on peut en tirer, n'est-ce pas, tout ce qu'il peut recouvrir. Non, vraiment, je vous présente toutes mes excuses. Et je reviens à Bernard Ventadour et à Marie de France. Parce que, bon, alors, le surplus, je me rappelle de Chrétienne III, Marie de France dans Digemar, c'est elle qui nous occupe. Bernard de Ventadour, donc, elle a probablement pris à Bernard de Ventadour le plus. Hein, et qu'en fait-elle? Marie, pour sa part, raconte étape par étape, la rencontre, l'amour naissant, l'aveu, les premières privautés entre Guigemar et la jeune femme enfermée par son mari jaloux, auprès de laquelle l'a conduit la nef enchantée. Et parvenue au moment où la pudeur interdit au récit de se poursuivre avec le même détail, elle se souvient du plus de Bernard de Ventadour et elle y recourt. Mais ce n'est qu'alors, dans le cours du récit développé, que ce plus développé, allongé lui-même en surplus, joue véritablement son rôle d'euphémisme. Il marque avec une discrétion apparente, donc vous avez le texte sous les yeux, oui, encore une ultime parenthèse, on me reproche de montrer des transparents au lieu de donner des photocopies. C'est vrai, n'est-ce pas, je fais faire à l'établissement et à ma chaire des économies de bout de chandelle. Mais la prochaine fois, ou peut-être même à la fin de cette séance, il y aura des photocopies pour un texte que nous examinerons vraiment de près. Il y a aussi que pour les lettres Marie de France, il est très facile de se les procurer, hein, et de même que pour les novas, n'est-ce pas, de sorte que je ne veux pas participer au photocopiage s'agissant de livres bon marché disponibles et dans une collection que je dirige. Et mais pour nous, quand nous examinerons un long passage d'un salut d'amour d'Arnaud de Mareuil, là, l'édition date de 1961, ça fait un demi-siècle qu'elle est épuisée, enfin bon, presque. Bon, voilà. Et donc, bon, j'en reviens donc au texte de Marie de France. Donc, le développement, l'euphémisme un peu allongé du surplus, marque, avec une discrétion apparente et en réalité avec une certaine complaisance, une ellipse dans le récit, des points de suspension. Et voyez, je relis en traduction le passage. La dame comprend qu'il dit vrai et sans plus tarder, elle lui accorde son amour avec un baiser. Désormais, Guigemard connaît le bonheur, ils sont couchés ensemble, parlent, à tout instant s'embrassent et s'enlacent. Quant au surplus, ce que font d'ordinaire les autres amants, c'est leur affaire. Il y a là, donc, elle a été assez explicite et le clin d'œil, si l'on peut dire, est assez appuyé à la fin. Il y a des points de suspension, les points de suspension étant presque pires que ce qu'il pourrait, ce qu'il remplace. Les troubadours, pour leur part, situent le poème tout entier au point exact où il n'y a pas de récit. Il n'y a rien que la requête, nourrie du souvenir de ce qui s'est passé. Je me souviens du jour où elle m'a accordé son amour et son anneau, là. Le jour où vous m'avez donné un baiser, excusez-moi, vous m'avez donné un baiser, etc. Hein? Donc, la requête nourrie du souvenir de ce qui s'est passé et l'attente de ce qui pourrait se passer et ce qu'ils espèrent. Mais le moment du poème est le moment où il ne se passe rien. Au moment même du poème, il n'y a rien à raconter parce qu'il ne se passe rien. Dans cette pause du récit, le monosyllabe « plus » éclate, résonne, emplit l'imagination, comme le font aussi les mains dont le manteau dissimule l'audace. Le plus et les mains sous le manteau n'agissent pas comme des euphémismes, mais plutôt comme une amplification assourdissante, aveuglante, de trop de proximité, comme un son trop fort n'est même plus perçu, hein, où on ne perçoit plus une mélodie si elle est trop forte, comme quelque chose, un objet vu de trop près, on ne voit pas non plus. Eh bien, ce plus joue ce rôle. Il n'y a rien à voir, rien à entendre, parce que c'est trop près, parce que ça emplit trop la conscience et le désir du poète. Une telle proximité du désir, que l'amant y est immergé, qu'il n'entend plus résonner qu'une syllabe, qu'il ne voit plus ce qui lui est trop proche. Plus, en plus, ou ce manteau, et il ne voit plus rien au-delà dans cette extase du désir qui va être assouvi. Marie de France, au contraire, utilise le surplus pour atténuer, pour détourner le regard de son lecteur des deux amants couchés ensemble, pour placer en écran devant ce regard la connaissance abstraite de ce que les autres ont l'habitude de faire dans ce genre de circonstances. Dans ce cas précis, c'est en glissant sur le surplus et en substituant au récit le renvoi allusif à une expérience commune et à une connaissance générale, c'est ainsi qu'elle fait pour un instant de la poésie lyrique le soutien et le substitut de son récit. C'est ainsi qu'elle préserve, mais en gauchissant le sens, le suspens du poétique dans le déroulement de ce récit. Et lorsqu'on, donc, dans ce cas, on peut analyser de façon assez certaine la façon dont elle procède, puisqu'il est certain qu'elle connaissait les chansons de Bernard de Ventadour, et très probable qu'elle l'a pensée à cette chanson particulière, ou qu'elle a emprunté à cette chanson particulière l'euphémisme du plus ou du surplus. Donc dans ce cas-là, on peut, avec un certain degré de probabilité, reconstituer sa démarche. Mais peut-être existe-t-il une relation analogue entre les développements et les silences de ces récits d'une part, les paroles et les silences des Les Bretons d'autre part. Mais dans ce cas-là, nous n'en savons rien puisque nous n'avons pas les Les Bretons. Et c'est pourquoi il est intéressant de s'arrêter sur des exemples comme celui que je viens de traiter, puisque là, nous avons les deux. Elle ne parle pas, elle ne dit pas « j'emprunte ça à Bernard de Ventadour », mais elle le connaissait. Nous devons bien nous contenter d'exemples de ce genre, d'exemples pour lesquels nous connaissons les poèmes dont, dans le détail, elle s'inspire, et dans ces poèmes, ce sont ceux des troubadours. Donc voilà pour cet exemple, et c'est le seul que je traiterai sur ce point, parce que comme j'ai un peu traîné, comme je raconte des sottises à tout instant, donc il faut que j'ai le temps de couvrir le champ entier de ce dont je veux parler. Et je passe donc maintenant à un autre point, celui des saluts d'amour, les saluts d'amour pris entre la chanson et le roman. En présentant en quelques mots au début de ce cours le genre du salut d'amour, j'ai dit que mon dessein était de chercher en lui un point de jonction entre poésie lyrique des troubadours et récit poétique. Rappelle que les saluts d'amour, qu'on appelle saluts d'amour, des poèmes, donc des poèmes des troubadours, des poèmes en Languedoc, dans lesquels le poète s'adresse à la femme qu'il aime, la salue, lui envoie son salut et lui demande son amour, donc, d'où le nom de salut d'amour, mais où il le fait non pas sous la forme du poème lyrique, de la chanson, un poème strophique, chanté, etc., mais sous la forme d'un poème qui se présente comme une lettre en vers, en octosyllabes à rime plate, donc un poème qui se développe comme le ferait une lettre. Donc, comme la chanson « Le salut d'amour » est un poème à la première personne, adressé à la dame, et dont le contenu est, d'une façon ou d'une autre, une requête d'amour, comme une nouvelle, il n'est pas chanté, mais récité, composé non pas en strophes séparées, à schéma métrique complexe et imbriqué, mais en couplets d'octosyllabes se succédant uniformément. Toute chanson est une requête d'amour, mais une requête qui peut être voilée, masquée, hésitante, qui peut se présenter, qui se présente souvent, comme la préhistoire d'une requête, le moment où l'amant hésite à se déclarer. Beaucoup de chansons font comme si elles n'étaient pas destinées à être entendues par la dame. Et disent qu'est-ce que je l'aime tellement, je suis malheureux, qu'est-ce que je ferai, est-ce que je vais lui déclarer mon amour? Non, parce que je vais tout perdre, et si elle se fâche et me bannit de sa vue, je serai trop malheureux, je mourrai. J'aime encore mieux qu'elle ignore ma flamme et ne jamais rien espérer, mais pouvoir au moins la voir, etc. Oui, mais qui ne risque rien à rien, et si je ne me déclare pas, jamais ne sera peut-être, après tout, me prendra-t-elle en pitié, etc. Bon. C'est quelque chose de très courant. Et dans tous les cas, même quand ce n'est quand la requête s'adresse directement ou presque directement à la dame, au moins dans la tornade, dans l'envoi final, dans tous les cas, la chanson, par l'effet même du découpage des strophes, de la complexité du schéma métrique, de la complexité souvent de la syntaxe elle-même, par l'effet du rythme haché des vers brefs, tout cela concourt à faire de la chanson une requête entrecoupée, inachevée, suspendue, presque balbutiante, dissimulant même quand elle, au fond, elle les respecte, les règles de l'argumentation. Ces règles, au contraire, le salut d'amour, les suites avec ostentation. C'est une lettre et une lettre qui obéit aux règles des artes dictaminis et au modèle si admiré au Moyen-Âge des héroïdes d'Ovide. C'est l'être d'héroïne de la fable, de la mythologie, amoureuse, c'est l'être imaginé par Ovide de ses héroïnes à leur amant, de Didon à Énée, etc. Et alors les héroïdes seront traduites en français, mais plus tard. Mais enfin, elles étaient constamment lues et exploitées. C'est une lettre sur le modèle de ces lettres littéraires parfaites aux yeux du Moyen-Âge qu'étaient les héroïdes, et c'est une plaidoirie conforme à ce que le Moyen-Âge retient des lois de la rhétorique oratoire. Nous en avons déjà parlé lorsque j'ai traité de la brevitas et de l'amplificatio. Cette lettre qu'est le salut d'amour se divise régulièrement, et on peut retrouver ce plan dans les différents poèmes, en salutatio, narratio, petitio. Salutation, narration, exposée du sujet de la lettre ou de la circonstance, et petitio, la demande, au bout de la lettre. On suppose que quand on écrit, on a toujours quelque chose à demander, et ne serait-ce que des nouvelles de la santé. Le poète a autre chose à demander et il ne s'en prive pas. Et la forme souple du couplet d'octosyllabes, dont rien ne limite la succession indéfinie, l'absence de contraintes prosodiques lui permettent de déployer donc le plan et l'argumentation de façon continue et logique. Et nous sommes là au cœur de notre sujet, tant cette force devient aisément une faiblesse poétique. Ces saluts d'amour, parmi les lecteurs de la poésie des troubadours, n'ont pas toujours une excellente réputation. On les juge aisément plat au regard des chansons. Et on juge que cette clarté, cette belle ordonnance, se paye d'une dépoétisation. Déployer plan et argumentation de façon continue et logique, certes, la chanson ne peut pas le faire, mais elle ne veut pas le faire non plus. Parce que sa plainte entrecoupée, la feinte gaucherie de son propos, mise en évidence par la virtuosité de sa versification, justement par ce côté haché et aplologique, tout cela touche davantage. Que gagne-t-on alors au salut d'amour? Et que garde-t-il du poétique? Y a-t-il une poétique ou une poésie propre au salut d'amour? Ou est-ce que c'est simplement le monnayage qui n'est pas prosaïque simplement parce qu'à l'époque on n'écrit pas en prose de la chanson? Je pourrais, pour tenter de répondre à cette question, reprendre l'exemple qui fournit à Elisabeth Poe la matière essentielle, comme son titre même le dit, de l'article que je citais tout à l'heure, « Marie de France, and the salut d'amour ». Et cet exemple, c'est la correspondance c'est le lait de Milon, de Marie de France. Dans le lait de Milon, le héros, donc Milon, et la jeune femme dont il a eu un enfant et qu'il a dû quitter, échangent une correspondance par le moyen d'un signe. Donc, ils ont eu un enfant, ils ne sont pas mariés, la jeune femme accouche en secret chez sa sœur, confie l'enfant à des mains étrangères, ensuite elle épouse quelqu'un d'autre, Milon va servir comme mercenaire des princes étrangers, c'est un thème fréquent dans les chansons de femmes et même chez Marie de France, ces amours inégales qui ne peuvent se conclure par un mariage, au moins immédiatement, et plus tard, il revient et il correspond avec cette jeune femme. Les années ont passé, ils ne sont plus si jeunes, puisque ça se termine par un combat du père et du fils, thème fameux depuis le Hildebrandslied, le plus ancien poème allemand, et qu'on trouve partout, et dans les Connlar et Fulain, Soussoulain, je ne sais pas comment on prononce, là, dans les textes celtiques. Bon. Et donc un combat du père et du fils, reconnaissance. Bon, et ça se termine bien, le mari meurt à propos, enfin, bon. Et le fils marie ses parents. Ça se termine très bien. Alors donc, ils échangent une correspondance par l'intermédiaire d'un signe, et on s'est posé des questions pour savoir si le signe était vraiment nécessaire, parce que le signe, on attache la lettre à la patte du signe, et puis un messager arrive avec le signe sous le bras et le propose à la jeune femme. J'exagère à peine. Mais en réalité, Elisabeth Poe montre avec beaucoup de finesse que le signe, en réalité, est nécessaire. Bon. Alors, bon, je cite cet exemple, mais par pure et trop longue prétérition, je ne le traiterai pas, en partie parce que Marie de France, allant jusqu'au bout de la logique du récit qui est la sienne, donne la teneur des lettres, mais non pas leur contenu littéral, ce qui permet à Costanzo Di Girolamo d'objecter à Elisabeth Poe qu'elle joue sur les mots en voyant dans ses lettres des saluts d'amour. En même temps, il critique certains points de chronologie dans la relation entre Marie de France et les troubadours. Mais à propos de cette correspondance entre Milon et celle qu'il aime, et la mère de son fils, Elisabeth Poe montre que Marie connaissait certainement et la lettre de Didon à Énée dans les Héroïdes, et celle qui s'en inspire, mais qui est la lettre de Lavinie à Énéas, dans le roman français d'Énéas, composé vers 1160, et dont l'auteur développe l'épisode des amours d'Énée et de Lavinie infiniment plus que ne l'avait fait Virgile, ce qui lui permet de remployer, en somme, la lettre de Didon à Énée sous la forme de lettre de Lavinie à Énéas. Alors, c'est bien à Énéas que je vais m'attacher moi aussi, mais non pas à la lettre de Lavinie et non pas en référence à Marie de France. Ce qui va nous retenir, c'est C'est encore plus bateau, mais l'autre élément, non. C'est la description dans Énéas de l'insomnie de Didon amoureuse qui développe les célèbres quatre premiers vers du livre 4 de l'Énéide en les comparant, et je vais comparer ce passage d'Énéas à un passage du premier des saluts d'amour d'Arnaud de Mareuil, qui est, ce n'est pas le seul troubadour à avoir composé des saluts d'amour, mais il en a composé toute une série. Et le premier, dont le premier vers est « Donna genser que ne sais dire »,« Dame plus charmante que je ne saurais dire », offre un long développement qui est très très proche de l'insomnie de Didon. Alors, y a-t-il une influence directe de l'une des deux œuvres sur l'autre? Oui, il y a certainement une influence du roman français sur le troubadour occitan, puisque le roman d'Énéas date vraisemblablement, je viens de dire, des alentours de 1160, peu après le roman de Thèbes, un peu avant le roman de Troie, donc cette série des premiers romans français qui sont des romans d'antiquité, comme on dit, c'est-à-dire des romans qui exploitent des sujets antiques et qui s'inspirent d'œuvres de la littérature latine, tandis que l'activité poétique d'Arnaud de Mareuil s'étend approximativement de 1170 à 1190. Et du reste, l'influence, est certaine, il est certain qu'Arnaud de Mareuil connaissait Énéas. Dans deux de ses saluts d'amour, le salut 1 dont nous allons étudier une partie et le salut 3, il énumère des amants célèbres, d'ailleurs nous aurons l'occasion de revenir sur ce passage, et il montre une bonne connaissance de ceux de l'Antiquité. Il nomme en particulier Antigone et Ismène, ce qui laisse supposer qu'il connaît le roman de Thèbes, aussi et Théocle, mais encore, et en outre, il cite parmi ces couples, non pas Didon et Énée, mais Lavinie et Énée, au vers 155 du troisième de ses saluts d'amour. Et c'est la preuve certaine qu'il connaît sujet de l'Énéide par le roman d'Énéas, puisque, comme je le disais, le roman d'Énéas suppose Lavinie et Énée profondément épris et développe très longuement leurs émois, leurs angoisses, leurs amours, leur façon de correspondre, etc. Justement, les lettres qu'ils échangent, le dialogue entre Lavinie et sa mère, qui voit bien qu'elle est amoureuse, enfin, etc. Et tandis que pour Virgile, il s'agit d'une union politique, si on peut dire historique, dont l'aspect sentimental ne l'intéresse pas. L'amour, c'était Didon et Énée. Énée y renonce pour suivre ses destins. Didon, faible femme, se jette sur le bûcher. Dans le Latium, il faut que Énée épouse Lavinie pour que soit créée, fondée Albe la Longue et puis Rome. Mais c'est à ça que sert Lavinie. Bon. Et c'est tout. Donc le fait que parmi les couples d'amants célèbres, Arnaud de Mareuil cite Lavinie et Énée, c'est la preuve qu'il connaissait l'histoire par le roman d'Énéas. Et enfin, je verrai volontiers un indice supplémentaire qu'il s'est inspiré du roman d'Énéas, dans le fait que quand il cite dans le Salut d'amour 1, celui qui nous occupe, toute une série d'amoureuses de la fable et de la poésie, et au milieu de sa description d'une insomnie amoureuse, il s'abstient précisément de nommer Didon, alors qu'il s'inspire visiblement du passage du roman d'Énéas qui concerne Didon, comme s'il essayait d'effacer sa trace. Et comme s'il essayait d'effacer sa trace, et peut-être la trace même de son emprunt. Mais mon propos ici n'est pas particulièrement de déceler des influences directes, ni de reconstituer une filiation particulière, ce qui, bien entendu, a déjà été fait. Ce que je veux examiner, c'est à partir de quelques vers que tout le monde connaissait, le début du livre 4 de l'Énéide, le mode de l'amplificatio dans un récit romanesque en vers français, l'un des tout premiers romans français, et dans un poème de troubadour occitan qui n'est pas une canso lyrique, mais qui en reprend et développe les thèmes et qui transforme la canso en récit tout en conservant le caractère subjectif. Ce sera donc un exemple important pour ma démonstration et je le traiterai assez en détail, mais je le traiterai dans la prochaine séance. Je vous remercie.
Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.college-de-france.fr.